On va commencer par Lourdes, le film sur Lourdes, donc de Thierry Demézière et Alban Terlet. Le film suit une dizaine de personnes d'origine et de conditions différentes. Laurent, 8 mois d'enquête, 1 an de tournage pour arriver à cette enquête.
Oui, alors on pouvait craindre le pire, hein, c'est-à-dire un bazar saint-sulpicien, confié en images pieuses, ce qui aurait été l'exact inverse du miraculé Jean-Pierre Mocky. On aurait préféré le second, évidemment. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que les deux cinéastes parviennent à un vrai propos, pas forcément d'ailleurs celui qu'ils revendiquent, qui serait d'être arrivé, parvenu à saisir ce qui est de la foi intime, du cheminement solitaire, de la croyance, absolument respectable, évidemment. Ça, je suis pas tout à fait convaincu qu'ils y arrivent. En revanche, ce qu'ils font très bien, et vous en donniez les prémices, c'est qu'ils filment effectivement ce groupe humain. Et au fond, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire ces gens qui sont quelque part en souffrance, qui viennent ici à Lourdes chercher du réconfort auprès de gens qui sont censés, infirmiers, prêtres, etc., leur en donner, le tout dans une croyance relative dans le miracle, il faut bien le dire, personne n'est réellement dupe, ou en tous les cas, on fait comme si, on fait semblant en partie, mais tout ça est profondément humain, et c'est ce qui donne son épaisseur à ce documentaire qui s'intitule, je le rappelle, Lourdes.
Petra, film espagnol de Jaime Rosales. Petra, jeune artiste peintre, intègre une résidence d'artiste auprès de Jaume Navarro, un plasticien de renommée internationale. Très vite, Petra découvre un homme cruel et égocentrique qui fait régner parmi les siens rancœur et manipulation. Alex, en tant que bon espagnol, vous avez vu ce film ?
Bien sûr. Jaime Rosales était l'un des personnages qui ont émergé pendant les années 2000 en Espagne, issu du cinéma d'auteur, mais qui a eu quand même certains succès de public. Depuis, il s'est un peu essoufflé. Il est souvent à Cannes, d'ailleurs, avec ses films dans les sections parallèles. Et là, il présente une tragédie grecque contemporaine, c'est-à-dire qu'il met à jour tous les codes de la tragédie classique, un peu à la manière de certains...
Christina Hopin, hein, on a le soutien de la Grèce.
Vous me direz ce que vous en pensez.
En revanche, Israël et les États-Unis, c'était...
Donc voilà, c'est une mise à jour de la tragédie classique, un peu à la manière de certains metteurs en scène au théâtre, comme Simon Stone ou Wajim Wawad, qui reprennent les mêmes codes et l'appliquent à la vie contemporaine. À travers ce conflit entre cette jeune plasticienne dont vous parliez et ce grand maître catalan, car le film se passe dans la Catalogne profonde, Rosales explore les grands sujets, le déterminisme, l'importance des liens biologiques, le rôle de l'art face au désordre de la vie et du monde... Moi, je trouvais ça un peu lourd. Hein. J'étais un peu... Je n'ai pas trop aimé le ton clinique qu'il emploie, l'excès de formalisme. Ce sont des choses qui plombent le film et qui le rend un peu antipathique, même si c'est un film qui n'est pas du tout dépourvu d'intérêt. Je trouve que c'est un cinéaste plutôt intéressant. Mais dans ce cas en particulier, je pense qu'il penche un peu trop du côté du formalisme.
On va passer à un film palestinien qui s'appelle « Reports on Sarah and Salim » de Mouyad Alayan. Une jeune israélienne, Sarah, et un jeune palestinien, Salim, donc tous deux mariés, s'éprennent l'un de l'autre. Leur aventure déclenche un jeu dangereux de duperie entre ceux qui détiennent le pouvoir et ceux qui ne détiennent pas. Oui, l'amour est politique, Laurent. Moi, je trouve que c'est une analyse en profondeur des implications politiques de cette histoire d'amour. Donc, tout y est décrypté, malgré une situation complexe, pleine de retournements. Et à la fin, un tableau assez terrible de cette société schizophrène.
Oui, c'est vrai. Alors, après, ce qui peut être un peu gênant, c'est que ça fait appel à tous les ressorts de la comédie presque à l'eau de rose, enfin sentimentale, c'est-à-dire effectivement la femme, l'amant, le mari, l'épouse, etc. Donc on a parfois un peu de mal à s'y retrouver sur ce que veut réellement raconter le film. Je pense effectivement que vous avez quand même raison, c'est-à-dire que ce qui prime avant tout, c'est le portrait sans la moindre concession et de la société israélienne et de la société palestinienne qui lui fait face.
Avec un portrait assez faible du mari israélien. Donc
oui. Moi, je trouve le film intéressant parce qu'il utilise les codes du cinéma de genre, des thrillers et même des films d'espionnage. Ça, c'est assez nouveau pour le cinéma palestinien. Mais il y a un peu des bons sentiments politiques qui gâchent l'ensemble.
Ouais, mais il en faut des bons sentiments politiques. Quand nous étions sorcières de Nitschka Kin, tourné en 1986, présenté à Sundance et en 91 et ensuite invisible jusqu'à sa restauration fiction, une histoire de sorcière inspirée du conte de Genévrier des frères Grimm, Laurent, et c'est la première apparition de Björk à l'écran. Elle a 19 ans.
Oui, elle a 19 ans. En 1986, elle n'est pas encore connue. Le premier album paraîtra plus tard, donc c'est une vraie découverte, et en même temps, c'est pas juste histoire de sortir un film avec Björk. Je crois que vraiment, ce qui est très intéressant, c'est d'abord le récit que nous raconte le film. C'est clairement une chasse aux sorcières, qui est d'abord une chasse contre les femmes, donc c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un film et un conte tout à fait d'actualité de cette cinéaste islandaise aujourd'hui décédée. Mais Björk, effectivement, avec ce visage incroyable qu'on connaît maintenant beaucoup, qui a beaucoup d'ailleurs fait de films, y compris des clips, et ce premier opus cinématographique, eh bien, installe en quelque sorte son personnage au cinéma.
Et c'est un thème super à la mode en ce moment, les sorcières.
Quand nous étions sorcières, bien sûr.
Matar a Jesus, je l'ai bien dit, Alex.
Très bien, parfait.
De Laura Mora. Paula était présente lors de l'assassinat de son père, professeur à l'université de Medellín. Alors que l'enquête officielle est déjà classée, Paula fait la connaissance de l'assassin, Jesus. La relation qui se noue entre eux, malgré le désir de vengeance de Paula, va ébranler les certitudes de cette dernière. C'est un film qui a été rêvé par la réalisatrice.
Oui, ça a été d'autant plus rêvé quand même qu'elle a connu cette situation, oui, à travers le décès de son père. Alors c'est le premier long métrage de cette réalisatrice. Ça se passe à Medellín, et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette ville est au centre du film. La façon dont elle la filme, dont elle montre cette cité d'extrême violence, c'est un des personnages. On peut-être lui reprocher évidemment le thème du pardon qui a été surtraité, multitraité, etc. Mais qui est effectivement au centre du propos de son film. Il n'empêche que le propos est absolument sincère et absolument intéressant sur ce qu'est la Colombie d'aujourd'hui.
Et on termine presque par Fugue, film polonais de Agnieszka Smoczyńska. Alicia a perdu la mémoire et ignore comment elle est arrivée là. En 2 années, elle parvient à se reconstruire et ne souhaite plus se remémorer son passé. Un film, dit la réalisatrice, pour dénoncer la politique conservatrice de la Pologne.
Bigrement intéressant, d'autant plus qu'il est écrit par son interprète principal, c'est assez rare, Gabriela Muscala, qui est vraiment très, très, très intéressante dans ce rôle. Ben, c'est une autre femme, quoi. Elle devient une autre femme à travers ce récit d'amnésie, et on songe inévitablement à la double vie de Véronique, mais ce parrainage-là ne suffirait pas à dire le film Fugue en lui-même, qui a énormément de qualité sur ce portrait psychologique, et quelque part, effectivement, ce portrait de la Pologne.
Pourtant, c'est classique, l'amnésie au cinéma.
C'est classique, mais en même temps, elle le fait très très bien, et je pense que pour un pays comme la Pologne, c'est un thème qui domine. Absolument.
Il y a Retour de Flamme qui est intéressant, parce qu'il y a Ricardo Darín dedans, et qu'il est trop trop beau.
C'est une Darín movie, ouais, comme on dit.
Voilà,
il y a un sous-genre pour cette type de film avec lui. Ouais.
Et il y a la Cinémathèque française à Paris, une très belle rétrospective, Michel Deville, qu'on vous conseille d'aller voir.
Et moi, je vous recommande le numéro de mai de So Film, qui est dédié aux acteurs. À quoi rêvent-ils? Et notamment à deux longs entretiens passionnants avec Jean Dujardin et Antonio Banderas. Dujardin sur son côté obsessionnel, ses méthodes de travail, sa vision de la folie. Il l'incarne dans Le Dain de Quentin Dupieux, qui d'ailleurs fera l'ouverture de la quinzaine. Oui. Il évoque aussi Brad Pitt et son Oscar. C'est assez drôle et profond. Et Banderas, lui, raconte cache sa collaboration avec Almodovar, Hollywood, Coppola, Stallone. Et en prime, Banderas, vu par Almodovar, ce film, et plein d'autres témoignages d'acteurs sur leurs rêves secrets, c'est-à-dire ce mois-ci.